France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Comment dire adieu à son premier amour, morte pourtant depuis plus de 30 ans? Maud Lubeck et Clotilde M montent sur scène pour un chant de deuil dans le spectacle privé SVP. Elles seront mes invitées à partir de 13h. Mais tout de suite, place à la critique. Aujourd'hui, on se concentre sur deux albums primés au 52e festival de la bande dessinée d'Angoulême qui s'est terminé dimanche. Les deux filles nues de Luz, fauve d'or du meilleur album, et En territoire ennemi de Carole Lobel, fauve spéciale du jury. Voilà pour le menu. Bonjour à toutes et à tous. Et pour débattre autour de la table, Antoine Guillot, journaliste, critique de cinéma et de bande dessinée, producteur de l'émission Plan Large sur France Culture.
Bonjour.
Joseph Ghosn, directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Et bonjour également à Carole Boinet, directrice de la rédaction de notre partenaire Les Inrecuptibles. Comme chaque premier vendredi du mois, vous venez nous confier un coup de cœur pour un jeune artiste. Bienvenue.
Bonjour.
J'avais envie de parler justement de cette exposition de Munich de 37 parce que je voulais peut-être rendre hommage à cet art, pas forcément à l'art dégénéré, mais aussi déjà au départ à l'art expressionniste allemand. Cette époque et cet art qui était à la fois entre un art qui critiquait la société, qui était à la lisière de la presse, à la lisière de l'art satirique et aussi de l'art dénonçant le beau et donc du coup qui cherchait une nouvelle ligne.
Le dessinateur Luz, qu'on avait reçu dans cette émission en octobre pour la sortie de son album Les deux filles nues. Ce titre, c'est aussi le titre du tableau du peintre Otto Müller, qui est au cœur de l'intrigue. Peint en 1919, il sera confisqué par les nazis et fera partie des œuvres exposées au cours de la tristement célèbre exposition dite d'art dégénéré de Munich en 1937. Entre-temps, cette toile aura été le témoin silencieux d'un drame en marche. Et c'est comme si nous y assistions à travers elle. Les deux filles nues a donc reçu le Fauve d'or du meilleur album et c'est publié chez Albin Michel. On va commencer avec un avis rapide de l'un et de l'autre. Et d'abord, Joseph Ghosn.
Il faut déjà un petit rappel. Tout le livre est fait comme s'il était en caméra subjective. Tout est vu à travers les yeux du tableau. Donc déjà, c'est une vraie prouesse. Et Luz parvient à la tenir tout au long du livre, de son récit. La prouesse technique, qui est d'abord une prouesse graphique. Donc ça, il la tient bien. Et passer la première impression qui est « Ah bah oui, ça ne va être que de la prouesse technique », on est pris par beaucoup de questions, beaucoup de problématiques que Luz parvient à distiller au fil de sa narration, et on est très très pris par ce livre qui effectivement est un très très bon Luz, un Luz d'un très grand cru.
Antoine Guillot.
Je serai plus bref, je dirais ça nous regarde.
Ça nous regarde, c'est bien dit, oui. Alors on y revient, Joseph Ghosn, beaucoup de questions au-delà de la prouesse graphique comme vous disiez, quelles questions alors?
Bien, d'abord, effectivement, comme le disait Antoine, ça nous regarde, mais toute la question c'est qu'est-ce que nous regardons? Parce que finalement, à travers les yeux de ce tableau, ce que l'on voit, c'est l'évolution d'un demi-siècle, avec au centre cette exposition d'art dégénéré dans laquelle le tableau est là parce qu'il a été confisqué. Mais c'est qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après? Donc, ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment ça qui m'a vraiment saisi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est observateur, quand on observe par exemple la montée du nazisme? Et c'est vraiment ça que l'on voit, parce qu'à un moment le tableau est dans la collection d'un avocat juif qui est petit à petit spolié et qui est petit à petit mis à l'écart. Et on le voit lui, évidemment le tableau ne bouge pas, donc quand on le voit lui, le cadre est toujours le même, le plan est toujours le même, on le voit, puis on voit derrière lui, derrière, dans la fenêtre, les choses qui avancent. Il y a même des plans très très beaux dans la nuit, et on voit et on assiste à son suicide. Mais toute la question c'est, que faire? Que faire? Ça nous regarde, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on fait face à la montée de ça? Et j'ai l'impression que quand même, un des constats de Luz, c'est que il y a une vraie impuissance. Il y a une vraie impuissance. On est, en tant que spectateur, à l'état de tableau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose et qu'on est ballotté en permanence. Donc il y a quelque chose quand même d'assez pessimiste, en tout cas d'un peu déprimant dans cette façon de regarder la montée de l'extrême.
Antoine Guillou.
Oui, alors je disais, ça nous regarde parce que c'est évidemment la question du point de vue qui est centrale dans ce livre. Marcel Duchamp disait que c'était le regardeur qui faisait l'œuvre d'art, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est l'œuvre d'art qui regarde le monde ? Et effectivement, ce côté déprimant, je pense que c'est le résultat d'une réflexion au long cours et de Luz sur que peut l'art dans la société, que peut l'art face à la montée ancienne du siècle dernier et actuelle du fascisme. Et ben la réponse est effectivement qu'il ne peut pas grand chose d'autre que raconter ça, mais ce qui est déjà beaucoup. Et alors ce qui est très passionnant dans l'évolution de Luz, qui quand il s'est mis à faire de la bande dessinée à partir des attentats de Charlie Hebdo, c'est-à-dire qu'il y a un moment il est parti du dessin de presse pour faire de la bande dessinée, il était dans une flamboyance du dessin, dans quelque chose qui explosait de partout, qui explosait les cadres, qui envahissait toute la page, et là tout d'un coup il a ressenti le besoin de se donner un cadre précisément. Donc on est dans une mise en page beaucoup plus classique de la bande dessinée, puisque les cases en fait respectent les proportions du tableau. Alors parfois selon comment est disposé le tableau, si on le trimballe à l'horizontale, les cases deviennent horizontales, s'il est bien accroché, il est à la verticale, s'il a un peu de guingois, comme les commissaires de l'exposition sur l'art dégénéré voulaient l'accrocher parce que ça fallait pas que ce soit trop beau. Il faut rappeler quand même que cette exposition de l'art dégénéré, c'est dit d'ailleurs dans le livre, c'est la plus grande exposition de toute l'histoire de l'art moderne. Étaient rassemblés les tableaux les plus extraordinaires des plus grands maîtres. Et d'ailleurs, elle va être prochainement recréée, cette exposition, donc on pourra la voir, y compris le tableau d'Otto Müller dedans, mais pour revenir à la...
Elle va être recréée où
elle doit être recréée...
Le musée Picasso dont vous parlez ?
Non, je crois qu'il est, il est question qu'on rassemble les œuvres qui avaient été présentées...
Les 700 œuvres.
À l'époque, et pour la faire tourner, pareil, mais pour maintenant célébrer cet art, parce que c'est vrai que quand on voit les tableaux qu'il y a dedans, on aurait voulu y être. D'ailleurs, c'est très étonnant que les visiteurs clandestins qui viennent voir cette exposition, qui à bas bruit disent « mais c'est quand même extraordinaire tout ce qu'il y a. » Mais alors, pour revenir à ce cadre, c'est vrai qu'il se donne une contrainte presque oulipienne, qui souvent est une vraie connerie. C'est-à-dire que quand vous regardez au cinéma les films qui ont été faits entièrement en caméra subjective, généralement c'est un désastre, depuis La Dame du Lac de Robert Montgomery jusqu'au dernier Soderbergh
Présence,
qui est vraiment d'une connerie sans nom. et là tout d'un coup c'est opérant parce que ça oblige Luz, qui a fait un travail quasiment d'historien de l'art, enfin quand vous voyez la bibliographie à la fin, c'est très impressionnant, à s'interroger sur comment représenter, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, à s'interroger sur la question du hors-champ, et notamment quelque chose qui me semble être nouveau chez lui, c'est travailler la profondeur de l'image. C'est-à-dire qu'on a très souvent quelque chose qui se passe derrière. Alors exemplairement, quand Joseph racontait tout à l'heure l'histoire de cet avocat juif, il faut aussi regarder ce qui se passe par la fenêtre derrière, qui va raconter précisément cette montée du nazisme, mais aussi la profondeur de ça, c'est toutes les compromissions qu'il peut y avoir, et notamment dans le milieu de l'art et notamment dans le milieu des collectionneurs par rapport à cette montée du fascisme. On se dit qu'effectivement, ce genre de collaboration, on la voit en ce moment même, comment de très riches personnages s'accommodent tout à fait des idées en train de monter. On en reparlera avec l'autre bande dessinée dont nous parlerons tout à l'heure. Mais c'est aussi une vraie réflexion artistique, et je crois que c'est avec ce livre que Luz devient vraiment un artiste. C'est qu'il se demande qu'est-ce qu'il y a derrière la platitude d'une image, derrière la surface, et il creuse ça de manière mais vraiment époustouflante. Hein. Je rappelle qu'il a eu non seulement le Grand Prix, le prix du meilleur album à Angoulême, il avait eu précédemment le Grand Prix de la critique, il a été repéré de partout comme un vrai pas qu'a franchi Luz, et il devient réellement là un auteur de bande dessinée et un artiste.
Joseph Kohn ?
Je crois qu'il faut se souvenir... des débuts de Luz. Luz évidemment a commencé comme dessinateur de presse. Il publiait notamment dans les Un Rock. Et puis il était aussi fan de rock. Il allait
beaucoup de musique.
Il allait beaucoup dans les concerts, etc. Et à partir d'un moment, il a développé des bandes dessinées qui racontaient ce qu'il voyait dans les concerts. Et il était lui-même dans les bandes dessinées. C'était vraiment une forme de participation avec un regard, une distance, etc. Mais il faisait partie du paysage, quoi, de ce qu'il racontait. Et j'ai l'impression que évidemment, petit à petit, avec les attentats, avec tout ce qu'il a essayé de construire ensuite, il y a quand même toujours eu cette question-là, et là, on la retrouve. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce côté d'observation participante, comme on dit en ethnologie, il a essayé d'en faire autre chose. C'est-à-dire de se dire, je suis quand même là, je suis au milieu de ce que j'essaie de raconter, même si je ne l'ai pas vécu, et j'essaie de trouver cette bonne distance et cette façon de montrer ces choses-là. Et pour ça, j'ai aussi cette impression qu'il est beaucoup allé voir du côté des Américains, notamment de Will Eisner, ou alors de certains dessinateurs du New Yorker, parce qu'il y a, dans cette construction d'un dispositif, ce qu'on peut retrouver parfois chez Eisner, c'est-à-dire de mettre en place un dispositif très serré et donc qui va permettre de construire vraiment la bande dessinée et avec aussi des accroches très très claires. Il y a beaucoup ça, hein, on voit le chapitrage, c'est toujours très clair, c'est très précis sur ce qu'on va voir, ce qui va être montré. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment allé chercher là et que même son dessin est parti s'inspirer de ça, de cette fluidité que pouvaient avoir certains dessinateurs du New Yorker, que Eisner a beaucoup, et parfois on a vraiment l'impression de se retrouver dans cette même forme de narration, qui est une très grande forme de narration, et qui est aussi une forme de narration qui était elle-même déjà liée. Chez Eisner, on le voit beaucoup dans ses récits, dans ses romans graphiques, qui étaient très très liés justement à cette période-là, à la période de la montée du nazisme, etc. Donc il y a quelque chose pour moi qui historiquement, il se place quelque part, et en plus, comme le disait Antoine, oui, c'est effectivement un très grand lu, c'est peut-être effectivement son meilleur, en tout cas c'est celui qui est le plus agrippant et qui se termine sur une note, évidemment c'est un livre qui est très pessimiste, je le disais tout à l'heure, très déprimant, mais il y a quand même cette note à la fin, vraiment cette note très finale, où d'un coup, je ne sais pas, j'ai eu l'impression de voir un sourire dans un regard de quelqu'un qui regarde le tableau, un sourire et donc peut-être une petite forme d'optimisme, et qui dit que finalement, cet art-là peut passer à travers tous ces troubles.
Sur le choix de la peinture, ces deux filles nues de Otto Müller, c'est l'expressionnisme. Comment il traite ? Est-ce qu'il le montre ? Qu'est-ce qu'il en fait ?
Alors, l'expressionnisme, il le montre par ses couleurs, déjà, c'est-à-dire on a des choix d'une sorte de fauvisme éteint, déjà très, très sombre, et qui est celui de la tonalité générale du mouvement Die Brücke, etc. Alors, ce qui est très réjouissant, c'est que, d'abord, il ne nous le montre pas. C'est-à-dire qu'il nous laisse imaginer sans arrêt qui on est quand on regarde, et puis à la fin, il nous le montre, mais il ne nous le montre pas vraiment, puisque ce qu'il en montre, c'est la reproduction qu'il en fait. C'est-à-dire qu'il faut, si vous voulez le voir, le tableau, ben soit vous allez à Cologne, dans le musée où il est exposé, soit vous en regardez des reproductions, mais il faudrait presque pas, parce qu'on pourrait presque imaginer que c'est un tableau inventé. Et en fait, il y a deux techniques différentes dans ce livre. Il y a ce qu'on connaît du pinceau très souple, très délié de Luz, les couleurs directes en aquarelle, et puis il y a la reproduction des œuvres. Et il y a beaucoup d'œuvres qui sont présentées, puisque ce tableau étant promené ici et là, souvent il est face à d'autres œuvres, soit dans les différentes versions de l'exposition sur l'art dégénéré, qui a voyagé dans toute l'Allemagne, mais avec des accrochages différents, donc il a toujours un vis-à-vis différent, soit dans le musée dans lequel il est aujourd'hui, soit quand il est posé dans une réserve. Et là, Luz utilise une autre technique, qui est le pastel, la craie grasse, où il va se confronter à l'histoire de l'art, là, réellement. Et alors ça, c'est passionnant, parce qu'il l'usise d'une certaine manière, ces tableaux, tout en les respectant, c'est-à-dire qu'on sent qu'à les redessiner, il a réfléchi dessus, il a réfléchi à ce que ça raconte, à la composition, et qu'il le veuille ou non, ça a infusé aussi ses cadres et ses propres façons de créer ces vignettes. Donc il y a une discussion comme ça, quand je parlais d'historien de l'art, c'est un historien de l'art en pratique, c'est-à-dire que c'est vraiment comme les apprentis artistes qui vont dans les musées copier les maîtres, ben, il s'est attelé à ça, et je pense que l'évolution dans sa technique et dans son dessin vient beaucoup de cette confrontation.
Les deux filles nues de Luz est chez Albin Michel, Fauve d'or du meilleur album. Je précise qu'une exposition a lieu, Les deux filles nues, jusqu'au 15 février à la galerie Huberti et Brenne à Paris. Et Luz était notre invité le 17 octobre. L'émission est encore à retrouver en podcast. Carole Boinet, c'est le moment de votre coup de cœur du mois. Vous avez choisi une jeune autrice de bande dessinée.
Et oui, elle s'appelle Salomé Laoche. C'est tout simplement mon petit rayon de soleil quotidien. C'est sur Instagram que j'ai découvert son travail il y a un an maintenant, car c'est là qu'elle a commencé, cette autrice de bande dessinée, en postant des strips autobiographiques hilarants, des strips qui dégueulent de textes, au style un peu naïf, genre fanzine, dans lesquels elle raconte sa vie de jeune femme, elle a 28 ans, avec une verve assez trash. Tout y passe, la dépression, le rapport à l'alcool, aux drogues, les règles, la procrastination, la famille, Macron, le patriarcat, la crise existentielle. Elle m'a résumé son projet ainsi. Je le vois comme un témoignage de ce que c'est d'être une jeune femme blanche de la classe moyenne en France en 2024. Ses dessins ont depuis été publiés dans deux albums. La vie est une corvée, sorti en 2022. Et Peur de mourir mais flemme de vivre, j'adore ce titre, sorti cette semaine aux éditions Exemplaires. Alors Salomé s'est aussi essayé à la fiction tendance BD désabusée avec Ernestine, l'histoire d'une petite fille qui fume, joue au poker et pique du fric pour se casser à Cuba. C'est drôle car à l'origine, Salomé Laoche lâche des strips sur Instagram simplement pour amuser ses amis. Et puis en 2021, elle publie un post hyper grinçant baptisé « Quel mec woke d'école d'art es-tu ?» Elle s'y moque de ses artistes masculins se revendiquant féministes pour mieux agresser des femmes. Le post est un succès, le nombre de ses followers Instagram s'envole, car en parlant principalement d'elle et de son nombril avec sincérité et autodérision, Salomé parle aussi de toute une génération anxieuse, projetée dans un monde ultra-numérique, confrontée à la crise climatique comme au patriarcat. Son éditrice chez Glénat, Julia Souchal, explique à Libération, elle parle à toute une génération qui a l'impression de vivre la fin du monde. Salomé Laoche, elle, dit, c'est à la fois une forme de fin du monde sans avenir, et en même temps, on passe son temps à regarder des réels marrants sur TikTok et Instagram. Bon résumé. Récemment, elle a publié un post qui commence ainsi, être adulte, c'est se taper des moments de pure joie, comme par exemple des rendez-vous avec la mutuelle AKA, passer 1h30 dans le bureau d'une meuf avec un chemisier à pois qui te parle de ta mort prochaine un mardi matin. S'ensuit le récit de la discussion avec ladite conseillère de la MGEN, hilarant, mais d'un rire jaune en proie à un certain effroi. Plusieurs de ses strips sont consacrés à son rapport à l'alcool, elle qui a enchaîné les cuites pendant des années avant de décider de tout stopper net, prenant le pli de la tendance à la sobriété actuelle. Cela fait désormais un an qu'elle n'a pas bu et elle en parle admirablement bien. En mars 2024, la diplômée des Beaux-Arts d'Angoulême et des Arts Déco de Strasbourg, tout de même, a reçu le prix de la révélation au festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Depuis, elle a publié dans la presse, chez Trois Couleurs, Le Monde Diplo, La Déferlante ou encore Les Inrocks. Salomé Laoche fait partie d'une nouvelle génération d'auteuristes de bandes dessinées qui s'emparent d'Instagram pour commenter leur vie et le monde qui les broie. Je pense à Shtam, par exemple, une jeune autrice au dessin minimaliste qui allie récit de soi, critique du patriarcat comme de la politique macroniste. Je pense aussi à Baconet Jaconet ou Blanche Sabat qui commente l'actu sur son compte La Nuit Remue Paris. Va-t-on toutes et tous rester sur Instagram? Ça, je ne sais pas, mais j'espère que ces auteuristes de bandes dessinées auront toujours une plateforme à portée de main pour s'exprimer.
Salomé Laoche par Carole Boinet. Merci beaucoup Carole. Quel est le dossier en une des Inrocks?
Alors en une, c'est Bob Dylan pour le film, bien entendu, avec Timothée Chalamet. On retrace toute l'histoire de Bob Dylan sur 30 pages.
On a beau croire qu'on a gros caractère, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue?
L'amour toxique chanté par Zao de Sagazon, c'est le piège que décrit Carole Lobel dans son album En territoire ennemi, un piège violent qui se referme pendant de longues années sur son alter ego de papier. Les débuts sont idylliques, bien sûr. Carole Lobel, c'est d'ailleurs un pseudo tant l'histoire racontée ici est sensible. Carole, donc, jeune étudiante aux Beaux-Arts, timide, rencontre le beau et drôle Stéphane. Elle ne tient pas compte des petits signaux d'alerte et elle s'engage avec lui dans une relation. Peu à peu, Stéphane va se révéler méprisant, manipulateur, agressif et puis carrément complotiste, fascisant, masculiniste. Entre-temps, il y aura eu deux enfants, des années de souffrance. En territoire ennemi a reçu le fauve spécial du jury cette année à Angoulême et apparu chez l'association. On commence avec un avis rapide, Antoine Guillaume.
Oui, derrière l'autobiographie masquée, je crois que c'est une description très très juste, un peu bavarde, mais à la fois, enfin, c'est très bavarde et très imaginative graphiquement parlant. Voilà, une description très juste du monde dans lequel nous vivons, ce qu'elle appelle la virilie.
La virilie, oui. Joseph Ghosn.
Alors c'est glaçant, ouais. Parce que il y a une comment dire, la mise en scène de toute une mécanique dont on entend évidemment beaucoup parler, mais là c'est représenté sur une période très longue, et on voit effectivement comment les choses s'installent à la fois dans ce qu'elle raconte et dans ce qu'elle dessine aussi, surtout. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture, un niveau effectivement très bavard et un autre qui est complètement muet mais qu'on ne fait que deviner et qui est encore plus effrayant.
Alors, qu'est-ce qu'elle apporte? Puisqu'on l'a dit, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, du masculinisme, des violences psychologiques imposées. Voilà, donc ce concept de la virilité, qu'est-ce qu'elle apporte dans ce...
Elle l'analyse de l'intérieur, en étant la première observatrice et la première victime de ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'elle observe comment un homme tout à fait charmant, brillant en apparence, que tout le monde adore, qui vote à l'extrême gauche, dans un milieu des beaux-arts, va basculer progressivement, même si les signaux sont là au départ, mais enfin les signaux on ne les comprend qu'a posteriori, et va transformer sa frustration, parce que elle réussit et pas lui, parce que il estime que qu'il n'a pas le succès qu'il devrait avoir, d'ailleurs il en a pas du tout, il va chercher des explications, et les explications sont les femmes, sont les juifs, c'est le monde dans lequel on est, et il va vivre surtout ce qu'on voit, c'est l'apparition d'Internet dans les foyers, et comment précisément à ce malaise du mal occidental, on pourrait dire, Internet va apporter des explications. Et les explications, en l'occurrence, ce sont les forums complotistes, c'est Alain Soral, c'est toute une communauté qu'on appelait c'est vraiment la naissance du masculinisme qu'on voit apparaître hors champ, toujours, puisque elle l'observe, elle ne sait pas trop ce qui se passe dedans, elle en voit les effets sur cette personne. Après, je pense qu'au-delà même de cette histoire, c'est beaucoup une question de transmission et d'héritage qui est interrogée dedans, parce qu'elle-même comprend qu'elle est une victime prédisposée à ça à cause de son héritage familial, à cause de notamment ce que sa mère lui a transmis sur l'impossibilité, l'interdiction même d'avorter, ce qui fait qu'elle se fera faire des enfants dans le dos littéralement, elle sera coincée encore plus par ça, mais c'est aussi la transmission de blessures d'enfance qui sont des deux côtés, mais qui n'ont pas exactement le même résultat, et la transmission d'idées sur les enfants du couple. Et c'est là que ça devient absolument terrifiant, parce que cette jeune femme va être complètement cernée, prisonnière, en territoire ennemi, comme elle le dit, par un ensemble de valeurs qui sont transmises, qui ont l'air comme ça de, c'est en souterrain, c'est pas très important, sauf que tout d'un coup, ça structure le monde dans lequel on est. Et ça structure, y compris... Moi, j'ai beaucoup pensé à Elon Musk en voyant ce personnage, parce que c'est un Elon Musk qui n'aurait pas réussi, mais qui trouve les mêmes explications à son malaise profond dans des théories terrifiantes qui sont après appliquées.
À ses fils aussi.
Oui, à ses fils. Enfin, c'est vraiment toute cette histoire du masculinisme qui est en train de construire le monde dans lequel on est. Alors, graphiquement, comment ça se représente? Ça se représente par une invasion progressive de symboles graphiques qui sont cette espèce de phallus... Qui finissent par faire des tours dans lesquels elle est complètement emprisonnée. Et c'est ce que je trouve qu'il y a de mieux dedans, parce que tout ce que je vous raconte, elle le raconte. Oui. Alors ça, moi, c'est là que je trouve que c'est parfois un peu bavard, c'est-à-dire que c'est vraiment du texte, ça pourrait être un livre par moment écrit, sans image, ça serait pas très différent, sauf que là où c'est passionnant, c'est quand tout d'un coup elle se tait, et que les métaphores graphiques ou la simple observation d'un couple, notamment leur rencontre, le début de leur histoire amoureuse, je la trouve formidablement racontée. Là, tout d'un coup, elle se tait et on se dit qu'elle devrait faire peut-être plus confiance à sa capacité à raconter graphiquement les choses qu'à nous dire les choses plus directement.
Joseph Gone, vous parliez justement de plusieurs niveaux de lecture, oui. Et le niveau silencieux.
Il y a un niveau qui effectivement, on a parlé, mais il y a un niveau qui est extrêmement silencieux, qui est le niveau graphique, dans lequel elle se représente. Et on a l'impression que elle ne sait pas parler d'elle-même, puisque elle parle mieux de lui qu'elle observe et dont elle retranscrit les paroles et ce qu'elle entend, etc. Mais d'elle-même, ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à raconter, donc elle représente des choses, et notamment dans les premières représentations de sa famille, de sa mère dont on voit pas le visage, mais dont on voit que le bas du corps, etc. Et ensuite, petit à petit, on voit que dans ses représentations, dans sa façon de dessiner le monde qui l'entoure, elle met en place des systèmes qui sont des systèmes de cage, d'encagement, et où petit à petit elle rentre dans, elle s'isole et il l'isole. Et elle arrive à représenter ça, notamment avec ses métaphores un peu florales ou cette espèce de forêt et qu'elle met en face de, elle représente la violence sous la forme de d'armes, notamment des haches au début, et puis ensuite les fusils, dont c'est, qui vont d'abord être des jouets. On les voit un peu au début, et puis après, à la fin, des jouets dont ces enfants vont s'emparer. Et petit à petit, en fait, ces armes-là, ces représentations-là, elles vont raconter davantage que finalement tout ce qu'elle est en train d'essayer de raconter sur elle-même. Et parfois, je trouve qu'elle pourrait même pousser ça davantage, un peu plus loin, parce qu'il y a des endroits où finalement elle tente des choses, elle raconte des choses, mais ça s'arrête. Il y a notamment une scène, moi, qui m'a vraiment bouleversé, où en deux planches, elle montre un viol, c'est-à-dire qu'à un moment, elle est violée. Il y a trois planches, dont une qui est une masse noire, et après elle dit, je ne sais pas comment en parler, je ne sais pas comment lui dire ça à lui, parce qu'elle est encore en couple avec lui. Et puis après, plus rien. C'est comme si il y avait quelque chose qui s'était passé graphiquement et on cherche derrière comment est-ce que ça va s'inscrire dans son subconscient, comment est-ce qu'elle va arriver à dessiner ça. Et on est un peu perdu, en tout cas, on est peut-être comme elle. Peut-être qu'elle était elle-même perdue par rapport à ça, qu'elle ne savait pas le représenter. Ça pose vraiment ces questions-là, ces questions de comment je fais pour dessiner ce qui m'est arrivé quand je ne sais pas en parler.
À quoi ressemble le dessin ? On peut le décrire un petit peu, Antoine Guillot ?
Alors, il est assez minimaliste. Il est fait au bic quatre couleurs, comme Émile Ferris. Dans Moi, ce que j'aime, c'est l'aimant. Sauf qu'il y a un rendu complètement différent, ouais. Justement, comme quoi c'est pas l'outil qui fait l'œuvre. Et ce sont, c'est un dessin à la fois minimaliste, mais qui part vite dans des choses assez délirantes. C'est très étonnant. C'est-à-dire que le monde est très malléable chez elle, et tout d'un coup, ce qu'elle pense, ce qu'elle imagine, s'intègre dans le monde où elle vit. Donc ça donne quelque chose d'assez terrifiant, parce que en lisant ce livre, tout d'un coup vous voyez plus le monde dans lequel vous évoluez de la même manière. Les symboles qu'elle explicite sont partout autour de vous et vous envahissent la tête. Donc c'est très très fort, parce que des personnes qui arrivent à transformer votre vision du monde, ils sont pas nombreux.
Je crois que ce qui est très très frappant, ce sont effectivement ces grandes pages où il y a un seul dessin qui prend toute la page, qui est extrêmement fort, très symboliste. Et j'ai l'impression qu'elle utilise ça parce que il y a une difficulté à raconter les choses de façon complexe, de dire il y a ce masculinisme en face de moi, mais je n'en fais pas partie. Comment faire pour le raconter? Et en fait, d'arriver à montrer que le monde, que la complexité du monde, en fait, s'imprègne de ces choses-là, et que ces choses-là sont comme des virus qui salissent les choses. Et elle arrive à montrer ça, notamment quand elle le représente lui, sa tête un peu éclatée ou explosée avec plein de choses qui ont l'air de rentrer dans la tête et qui sont en train de le métamorphoser. Ça, elle le fait d'une façon extrêmement forte et qui raconte bien mieux que beaucoup d'analyses ou de discours la façon dont justement tous ces forums, toutes ces paroles, toute cette galaxie finalement de petites paroles masculinistes ou fascistes, etc., s'imprègnent dans des gens qui en fait sont juste des boîtes ouvertes et qui sont prêtes à être remplies. Elle le montre ça très très de façon très forte.
En territoire ennemi de Carole Lobel chez l'association Faux Spécial du jury Execo, avec Météore chez Delcourt de J.C. Devenet et Tommy et Redolfi. Toutes les références sont sur la page des Midis de Culture. Joseph Gone, Antoine Guillot, Carole Bonnet, merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture ce midi.